Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Toul, c'est le nom du groupe qui accompagnait le vœu de Anne de Brienne dans l'épisode 35. Le morceau Third Eye sur l'album Unima. Je pourrais passer des heures, je crois, à vous expliquer pourquoi cette musique est importante pour moi, mais bon, c'est pas vraiment le but de l'exercice du moment. Cette semaine, je vous propose de rencontrer un homme dont c'est le métier de regarder le futur. Il se nomme Jean-Christophe Bonis. Il traverse le monde, il traverse le temps, et s'est arrêté à mes côtés le temps d'une conversation où vous croiserez la planète Mars, vous rencontrerez Sapiens en chemin vers une nouvelle humanité augmentée. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Jean-Christophe.
Salut.
Je suis ravie de te rencontrer parce que tu as un profil particulier. Tourner déjà vers le futur et vers 2050 pour l'occasion aujourd'hui en particulier. Alors toi, tu justement, au quotidien, tu regardes le futur. Est-ce que tu peux m'expliquer justement ce que tu fais comme métier ?
Alors j'ai un métier très particulier, je suis futuriste.
Et ouais.
Voilà, comme on a un petit peu discuté tous les deux. Mmh. Aux États-Unis, c'est très courant, en Europe, pas vraiment. Mmh. Je pense que quand je dis futuriste, la moitié des gens me regardent avec un air en se disant « est-ce qu'ils se foutent de moi ou pas ?» tu sais. Basiquement, je scanne tout ce qui se passe en termes d'innovation à travers la planète et on intègre à ça des notions sociales, toutes les variables qui peuvent modifier, on va dire, les grands enjeux. Et on essaye d'en tirer des conséquences sur le comportement des consommateurs, la stratégie des entreprises, la société en règle générale, en anticipant les 10, 15 prochaines années en fonction des marchés, en fonction des choses. Et de ce contenu-là, qui bâtit et que je bâtis depuis très longtemps, en fait, on est en train de bâtir une vision, on a une vision qui est claire, et on essaye de la dérouler sur des entreprises pour les aider à bâtir leur propre vision, sur des conférences, sur du contenu, comme par exemple on est en train de faire, de la même manière que toi, ou alors plutôt sur l'écosystème start-up, pour les aider à passer les étapes et à grandir plus rapidement.
D'accord. Alors pourquoi le terme futuriste et pas prospectiviste, par exemple ?
Alors, en France et en Europe, tu as trois termes. Futuriste, futurologue et prospectiviste. Pour moi, ça n'a rien à voir. Alors, il y a une petite notion, on va dire, de coquetterie sur la logique de futuriste, parce que c'est un terme très anglo-saxon, très international, qui a vraiment attrait à la logique technologique et à l'usage. Prospectiviste, on est vraiment pour moi, et encore une fois, c'est de la sémantique, il n'y a pas de choses qui sont très très claires, sur de la macroéconomie. C'est-à-dire, c'est des macroéconomistes qui vont essayer de mettre en place les grandes lignes macro sur du long terme. Moi, je m'inspire des lignes macro, bien entendu, mais ce n'est pas mon fonds de commerce, et surtout, ce n'est pas ma spécialité. Futurologue.
Ça fait un peu astrologue, etc.
J'ai jamais compris pourquoi on utilisait ça. Je ne sais pas si c'est la logique, tu sais, de transformer l'anglais en français ou ce genre de choses. J'ai l'impression d'être un médecin. J'ai l'impression d'être, tu sais, sur ces logiques, boule de cristal. Et donc, j'aime pas du tout ce terme-là. Et je tiens vraiment à ce terme futuriste. Et en plus de ça, mon équipe et tout mon groupe, on travaille vraiment sur le terme futuriste. Même mes surnoms et compagnie sont autour du terme futuriste, donc j'aime bien ça.
Ouais. Et donc tu as créé ta boîte qui s'appelle Oxymor.
Oxymor, voilà, tout à fait, Oxymor. En 2009.
Et alors quand on a discuté un peu en préparant cette conversation, tu as utilisé une expression que j'aime beaucoup, celle de devoir social d'informer.
On a un devoir social d'interagir, on a un devoir social d'expliquer, pour essayer de prendre des options qui soient des options positives pour l'humanité et non pas des options égocentriques simplement pour un écosystème, pour moi, ou ce genre de choses. Et donc je considère, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté ma précédente carrière et que j'ai créé Oxymor, que j'ai un devoir social, au-delà de, bien entendu, faire marcher une entreprise et mes équipes, etc., d'expliquer les choses, d'assumer des valeurs, d'assumer un ADN fort et d'aller au-delà de simplement la notion business, rentrer dans une notion qui est une notion humaine, au sens non pas humanitaire, mais au sens espèce globale du terme. Voilà.
Il y a ce temps qui s'accélère, qui est aussi le sens aussi de ce podcast, hein, un temps long qu'on ne sait plus regarder, et pourtant les choses bougent à une vitesse folle. Justement, on va parler aussi un peu de technologie pendant cette conversation, mais ce sentiment d'accélération, toi aussi, c'est quelque chose que tu perçois.
Je vais te répondre à cette question de deux manières. Le sentiment d'accélération, il est massif, exponentiel depuis 20 ans. Quand tu regardes notre histoire, hein, jusqu'à moins 10 000 avant notre ère, hein, tu vois que les innovations majeures qui ont impacté l'humanité, pas simplement des écosystèmes, sont des innovations majeures qui, au fil du temps, s'accélèrent. Donc, on est en plein paradoxe entre, d'un côté, un rythme du quotidien qui s'accélère, avec des demandes sur le quotidien de chaque intervenant, que ce soit au niveau politique, personnel ou autre. On est noyé par le jour le jour. Et parallèlement à ça, une obligation de prendre de la hauteur, parce que les enjeux, les impacts sont tellement importants et peuvent faire tomber des marchés, peuvent faire tomber aussi bien des entreprises que des sociétés, très rapidement, qu'il faut prendre de la hauteur. Or, tu ne peux pas consacrer 150% de ton temps au quotidien et avoir du temps pour la hauteur. Et donc, il y a un trou dans la raquette, qui est un trou dans la raquette que des personnes comme moi, par mon entreprise, mais d'autres aussi, hein, essayent de combler de manière à pouvoir avancer là-dessus. Ça, c'est ma première réponse. Ma seconde réponse est liée cette fois-ci plutôt à une notion beaucoup plus philosophique. Lorsque, dans les années 1600, 1700, tu voulais correspondre avec quelqu'un, t'envoyais une lettre. Tu avais ta lettre qui mettait des mois à partir, à être reçue, lue et à recevoir une réponse. Donc la profondeur de ce que tu écrivais, par définition, devait être réfléchie. Tu ne vas pas faire un truc pour dire qu'il fait beau. Avec l'accélération des technologies qui rapproche toute personne au travers de la planète et qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer n'importe quoi à l'autre bout de la planète. Moi, j'ai des équipes qui sont aux quatre coins du monde. J'interagis avec eux. La seule différence, c'est parfois c'est la nuit, parfois c'est le jour, c'est tout. On a, dans la société en règle générale, un appauvrissement de la pensée. Parce que qui dit augmentation de la vitesse de la communication dit que maintenant on communique pour ne rien dire.
Oui, on est dans la réactivité.
On est dans la réactivité, et on le voit bien d'un point de vue politique et sur une multitude de choses. La communication en soi est devenue un fait et n'a pas de profondeur dans la majorité des cas. Résultat des courses, malheureusement, on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment quand on doit se les poser. Et donc, cet appauvrissement global fait qu'il y a des nécessités, d'une certaine manière, d'avoir de nouveau des penseurs. Je ne me considère pas comme tel, mais c'est-à-dire des gens dont le métier, c'est bien de prendre de la hauteur et de poser des questions, globales, au-delà des aspects liés à l'économie, à la société, des questions globales sur est-ce que parce que l'on peut faire technologiquement quelque chose, on a le droit de le faire ? Est-ce que la ligne entre le bien et le mal, qui est la ligne très judéo-chrétienne imposée par principalement l'Occident, est cohérente dans un environnement global où tu as des civilisations ou des peuples qui n'ont pas la même ligne, et on ne peut pas considérer que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste une question d'histoire. Cependant, tout ça, hier, impactait des générations à 100 ans, 200 ans, 300 ans, aujourd'hui, ça impacte nos générations. C'est-à-dire que les enjeux sont des enjeux globaux tellement importants qu'il est important de les expliquer. Ça, c'est la deuxième réponse. Les deux sont la cause de mon travail et du pourquoi je fais ça.
Alors, tu viens de parler de la question de pouvoir. On peut faire quelque chose, est-ce que ça nous donne le droit de le faire ? Donc on en vient au thème que tu as choisi pour cette conversation, l'articulation entre la technologie, l'humain et l'éthique. Aujourd'hui, en 2017, quand tu regardes ces... alors c'est pas trois univers, mais on va dire que c'est trois paramètres ou paradigmes, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'en termes de technologie... On voit fleurir l'intelligence artificielle qui soulève plein de questions. Je pense qu'on va y revenir.
Alors, on a depuis le début du 19e siècle, hein, la première révolution industrielle, des lignes de fracture au niveau mondial, qui sont des lignes de fracture qu'on appelle, d'un point de vue très, j'aime bien, très diplomatique, le nord et le sud, les pays riches, les pays pauvres. On a une deuxième ligne de fracture qui a été ouverte avec l'Internet et l'accès de ces technologies, donc depuis en gros une trentaine d'années, entre ceux qui ont accès à l'information et ceux qui n'ont pas accès à l'information, et qui est une ligne de fracture extrêmement nette. Et puis tu as une troisième ligne de fracture, qui est une ligne de fracture en train d'être ouverte de plus en plus, entre ceux qui vont avoir accès ou ceux qui ont accès à la technologie, et ceux qui n'auront pas accès à la technologie. Quand on parle d'avoir accès à un smartphone, ok, ça ne change pas grandement la vie des gens, je veux dire, ça ne va pas changer l'humanité. Mm-hmm. Et surtout qu'il y a des smartphones, tu me parlais du fait que tu rentrais d'Afrique, tu vois bien ce qui se passe en Afrique, ils n'ont pas d'électricité, sur certains villages, il n'y a pas d'eau courante, ils ont tous un smartphone. Ouais. Pourquoi ?
Voire deux,
parce que ça leur permet de vivre, ça leur permet d'avoir une banque, ça leur permet d'avoir des logiques de santé, enfin, c'est gigantesque en Afrique ce qui se passe dans la logique du smartphone. Ouais. En 2017, sur le plan technologique, on a des technologies aujourd'hui qui sont en train d'arriver à des niveaux de maturité et des enjeux dans les années à venir qui sont titanesques, en positif comme en négatif. On ne va pas rentrer dans le jeu des rapports sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est que, si tu parles à 2050, on va avoir des technologies qui vont nous permettre d'augmenter d'une certaine manière nos capacités, qui vont permettre de solutionner une multitude de maux qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'est pas capable de trouver des solutions sur une multitude, par exemple, de maladies. L'intelligence artificielle, d'une certaine manière, va nous permettre de trouver des solutions et d'accélérer ces solutions par rapport à des peuples entiers, par rapport à des choses sur la maladie, l'écologie, etc.
Ouais. Et je disais d'ailleurs, il y a déjà des expérimentations d'intelligence artificielle pour faire de la prédiction dans des groupes de personnes, lesquelles ont le plus grand risque de déclencher.
Exactement. Et ça va de plus en plus vite. Cependant, pour la première fois de notre histoire, c'est-à-dire de notre histoire pas en tant que Français, en tant qu'homme sapiens, donc vraiment de la catégorie sapiens, on est confronté à moins de 50 ans à des enjeux qui sont des enjeux qui n'ont rien à voir, même si c'est extrêmement malheureux ce qui se passe, qui n'ont rien à voir avec les querelles tribales qu'on peut voir aujourd'hui à travers la planète. Aujourd'hui, les humains se battent sur des notions de lignes sur une carte, sur des notions de « tu n'as pas la même couleur que moi, je ne te crois pas, tu ne crois pas dans les mêmes enjeux, dans les mêmes idées religieuses, politiques ou autres ». On est sur des guerres dites, entre guillemets, de cours de récréation. Même si c'est des enjeux qui sont majeurs en termes de population. C'est parce que je ne sous-estime pas. Je suis juste en train d'expliquer qu'on arrive à un niveau maintenant, par cette technologie, par ce qui est en train d'arriver extrêmement rapidement, où la seule manière de répondre à ces enjeux-là, ces nouveaux enjeux, vont être d'y répondre de manière unitaire et de manière globale, en tant qu'espèce et non pas en tant que telle civilisation, tel pays ou ce genre de choses. Et je ne suis pas persuadé qu'on soit prêt à ce genre de choses. Qu'est-ce qui est en train d'arriver ? On a aujourd'hui développé des technologies, on est en 2017, ta question c'est 2017, qui sont des technologies, quand tu regardes les textes anciens, tu lis Platon, tu lis les textes grecs, tu lis la civilisation sumérienne, babylonienne, les enjeux de la civilisation romaine avant qu'elle devienne catholique, tu as des dieux. Aujourd'hui, on a les mêmes pouvoirs que ces dieux dans les écrits. On peut créer la vie, on peut la retirer, c'est facile, mais la redonner, on peut la modifier, on peut donner vie à des choses dont techniquement c'était pas la logique d'avoir vie, je parle des machines d'une certaine manière. Et donc ces enjeux sont des enjeux qui font que on est devenu puissant comme des dieux. Or, toute puissance nécessite par définition une contrepartie, et la contrepartie, c'est la capacité d'avoir conscience de ça et donc d'avoir des responsabilités. Or, je ne suis pas persuadé qu'on ait conscience des enjeux et des conséquences long terme de la puissance que l'on a.
Alors après, on voit, alors je ne sais plus si c'était une pétition, mais Musk, par exemple, qui disait les dangers voilà, de l'intelligence artificielle, des robots tueurs, etc. On a cet éveil, mais qui reste quand même dans des strates qui ne sont pas celles de l'individu lambda et des politiques aussi, sans doute.
Alors, les politiques, on va les évacuer, parce que les politiques sont, en général, avec une vision qui dépasse rarement les 3 jours. Donc, sauf certaines personnes, mais dans leurs enjeux, pour leurs problématiques politiques, etc. Donc, on évacue parce que je n'ai vu que très rarement des politiques qui ont la capacité et le pouvoir et la capacité politique de traiter ce genre de choses. Je vais juste mettre un bémol à ce que je viens de dire, qui est en Suède et en Corée du Sud. Ils ont créé, et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, un ministère du futur. Un ministère du futur dont l'objectif, c'est de traiter les enjeux sur leur société, long terme, donc à 10, 15, 20 ans, de tout ce qui est en train de se passer. Nous, on avait un plan, après ça s'est transformé en prospective, etc., une espèce, tu sais, de comité Théodule, mais on aurait réellement besoin d'avoir ce genre de choses, et ça, c'est une idée politique extrêmement innovatrice. Mais indépendamment de ça, pour répondre à ta question, la problématique qu'il y a par rapport à des Elon Musk, elle est extrêmement simple. Il a tort et il a raison en même temps. Pourquoi des Elon Musk s'affolent ? Parce qu'il a un accès à un niveau d'information en termes de technologie qui est paniquant. Et je n'ai pas le même accès, parce que lui, il a vraiment un accès. Mais déjà parce que je vois passer à travers la planète, c'est extrêmement flippant. On n'a pas du tout la même problématique avec l'intelligence artificielle qu'avec l'arme nucléaire. Quand on voit tous ces petits mondes s'exciter sur la Corée du Nord, même si c'est problématique, politiquement parlant, l'arme nucléaire nécessite de l'uranium, qui est une valeur rare, traquée à travers la planète. Donc même si c'est très très puissant, on a rarement vu des problématiques liées à des groupuscules prendre contrôle de ce genre de choses. L'intelligence artificielle n'a rien à voir. C'est de l'eau et du sable. Pourquoi ? Parce que derrière ça, c'est des puces électroniques. Des puces électroniques, c'est de l'eau et du sable. La technologie en elle-même est un open source pour la majorité. Ce sont des choses qui existent à travers la planète. On dépense plus d'argent en intelligence artificielle. Depuis 2010-2011, on voit des pics, notamment en 2012, sur tout ce qui est investissement, des fonds d'investissement dans le domaine, où on parle de milliards. C'est absolument fou. Et personne ne contrôle ça, en termes d'éthique. On est en train de s'exciter sur des problématiques liées à la bioéthique, sur les embryons, etc. Nous, sur l'Europe principalement, là où sur l'intelligence artificielle, on n'a pas ces problèmes-là. J'ai donné une interview il y a 2 ans où j'ai signifié que l'arme nucléaire du 21e siècle serait l'intelligence artificielle. Il y a 3 semaines, Poutine a donné un talk en face de comité scientifique russe, expliquant de manière extrêmement pragmatique que la nation qui liderait l'intelligence artificielle liderait le monde sur le 21e siècle. On a des investissements massifs qui sont faits en Chine, en Israël, en Russie, bien entendu, aux États-Unis, et puis à droite à gauche d'un point de vue militaire. Et on a des entreprises qui sont les GAFA et les équivalents liés aux Chinois et aux Russes qui investissent, mais tu n'as même pas idée des sommes investies.
Et donc, est-ce que ça veut dire qu'à l'horizon 2050, la partie, elle est déjà perdue ?
Non, justement, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle et il est cohérent qu'il y ait, d'un point de vue global, une espèce d'instance qui coordonne ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que si on perd le contrôle, d'une manière ou d'une autre, c'est un scénario qui est un scénario possible, on a un énorme problème. On va avoir, dans les années à venir, c'est pas est-ce que c'est une certitude. L'incertitude est sur le timing. On va avoir des technologies d'intelligence artificielle globale qui vont nous permettre réellement de révolutionner la société, en positif comme en négatif. Cependant, ça va créer un troisième gouffre dont je t'ai parlé, une troisième ligne de fracture liée à la technologie. Et derrière ça, on va avoir un problème qui est un problème lié à l'humanité. C'est pour ça qu'un Elon Musk crie en alerte, alors que c'est l'un des investisseurs majeurs, parce que la technologie va d'une certaine manière aussi permettre de nous augmenter en termes de capacité. Il a créé une société qui s'appelle Neuralink. Alors tout le monde rigole, etc. Mais à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a délivré. Hein. Et tu as beaucoup d'investissements qui sont faits sur ce qu'on appelle le mix entre la technologie neuronale, donc la connaissance du cerveau, et la capacité à augmenter la capacité du cerveau. Que ça se passe de cette manière-là ou pas, il est certain qu'à 2050, et là tu me demandes de faire un exercice de prospective, à 2050, on va avoir des technologies qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités humaines. Quand tu vois un Google, par exemple, qui a créé une boîte dont le métier, dont la... L'objet social, c'est de tuer la mort. C'est-à-dire de solutionner la problématique technique qui est, on meurt, c'est quand même chiant.
Si on pouvait s'en
passer. Et que, parallèlement à ça, on a d'un point de vue biologique, énormément de technologies qui nous permettent et qui vont nous permettre très rapidement de remplacer les organes de notre corps qui tombent les uns et les autres en fonction de maladie, en fonction de vieillesse. On peut dire qu'aujourd'hui, je te parlais par exemple du docteur Alexandre, Laurent Alexandre, qui écrit et qui dit beaucoup de choses autour de ça. Quasiment la moitié des jeunes aujourd'hui dans les sociétés occidentales qui sont en primaire, donc par exemple tes enfants, la moitié d'entre eux vivront jusqu'à 150 ans. Dans une société où on est en train de se battre pour savoir s'il faut travailler 62 ou 63 ans, et on ne privilégie pas la qualité de vie long terme, on privilégie le nombre d'années qu'on va vivre. Et ça, c'est extrêmement problématique sur deux aspects. Un premier aspect qui est un aspect civilisationnel. À 2050, on va avoir une augmentation de l'espèce d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que même si nous, on se pose des questions, on va avoir la technologie qui, pour certaines personnes, certaines civilisations, qui auront accès à la technologie, qui auront l'argent, qui auront les lois, bref, ce mix-là, vont faire le nécessaire pour que on ait des capacités intellectuelles et physiques augmentées. Ça, c'est la solution d'Elon Musk, et d'une certaine manière très américaine, d'accord, très pragmatique. Parallèlement à ça, on a la solution dite plutôt chinoise. Aujourd'hui, en Chine, tu as 400 millions de personnes qui ont le même niveau de vie que nous et la même puissance financière que nous sur les 1,5 milliard, entre guillemets, officiels, sachant qu'ils sont un petit peu plus, voire beaucoup plus, puisqu'on ne sait pas exactement combien ils sont. Ces 400 millions de personnes ont des enfants, vont avoir des enfants. Aujourd'hui, ils considèrent, il y a des études qui ont été faites, que s'ils ont accès à des technologies qui permettent d'augmenter leurs enfants, en termes de capacité, ils les utiliseront pour que leurs enfants aient plus d'outils et de chances sur la compétition mondiale. C'est-à-dire que tu vas avoir des civilisations entières. La Chine en fait partie. La Chine, c'est quand même un cinquième, en gros, de l'humanité aujourd'hui. Hein. À 2050, on aura dépassé 10 milliards d'habitants. Qui vont utiliser des technologies génétiques de manière à pouvoir avoir de la sélection génétique pour augmenter d'une manière ou d'une autre les capacités humaines. Donc, on va avoir un monde à 2050, qui est un monde où on va avoir...
Une nouvelle fracture, en fait, entre...
J'irai même plus loin, une nouvelle espèce. Parce qu'on va avoir, soit technologiquement, soit génétiquement, soit le mix des deux, la capacité, au lieu de choisir si tu vas être blonde, si tu as un garçon ou une fille, comme on le fait aujourd'hui, tes capacités cérébrales, tes capacités de vue, tes capacités physiques, enfin une multitude de choses. Or ça, d'un point de vue historique, ça s'appelle un changement d'espèce.
Ben oui, alors justement, en 2050, en suivant le cheminement de ta pensée, qu'est-ce qu'il restera d'humain en nous ? Parce que si la technologie règle, je caricature, mais les questions de santé, que les algorithmes nous permettent de prédire plus ou moins, que ce soit des questions de climat, de criminalité, etc.
La problématique va plus loin. Est-ce que le fait qu'on a eu des mutations génétiques a fait de nous des choses moins humaines ? Je ne crois pas.
On pourrait reprendre le terme post-humain.
On va avoir effectivement transhumanisme, post-humanisme. C'est des théories qui existent, hein, qui sont plus ou moins crédibles en fonction des choses. Restons très pragmatiques. Ces enjeux d'évolution sont des enjeux réels, et qui sont des enjeux réels qui vont poser des problèmes massifs. Pourquoi ? Parce que tu as des civilisations qui ne se posent pas la question. La Russie ne se pose pas la question. La Chine ne se pose pas la question. Numéro un mondial aujourd'hui du séquençage ADN, ce sont des Chinois. Nous, par notre histoire judéo-chrétienne, on a encore des débats éthiques, qui d'une certaine manière sont des bonnes choses, sur peut-on ou peut-on pas. Cependant, ces débats éthiques, n'étant pas des débats mondiaux, créent des distorsions de temps par rapport à la capacité de certains pays à avancer. Or, historiquement parlant, à chaque fois que Sapiens a évolué, il a tué par génocide, et j'assume le mot génocide, les espèces moins fortes. C'est-à-dire que pendant la préhistoire, toutes les espèces animales qui n'étaient pas capables de vivre dans cet environnement-là ont été éradiquées. Aujourd'hui, on éradique, pour une multitude de raisons, la majorité des espèces. On a perdu quasiment 50% des espèces, et tu vois les rapports par rapport à ça. On voit bien que d'un point de vue civilisationnel, on a éradiqué des espèces pour des raisons et des civilisations pour des raisons plus ou moins crédibles. Les Espagnols ont écrasé les Mayas et les Aztèques, il n'en reste rien. C'est un génocide qui a été passé. Et donc, on peut se demander, de manière réelle, qu'est-ce qu'il va se passer entre des hommes qui auront des capacités augmentées par la technologie, par la biologie, par le mix des deux, on s'en fout, c'est pas tellement là le problème. Et le reste de l'humanité. Et donc, comment ça va se passer ? Ça, c'est une première problématique. Et la deuxième problématique est une problématique, encore une fois, éthique. Est-ce que parce que l'on peut faire ce genre de choses, on en a le droit ? Sachant que, parallèlement à ce que je viens de te dire, qui sont des enjeux, une toute petite partie des enjeux qui touchent l'humanité en tant que sapiens, sur le plan simplement de la technologie et des enjeux liés à la technologie, hein, biologie, génétique et intelligence artificielle, c'est la technologie. Parallèlement à ça, on a des enjeux environnementaux qui aujourd'hui sont même pas traités au millième de ce qu'ils devraient être traités, avec des discussions ubuesques d'un Trump qui remet en cause les choses, alors qu'on vient d'avoir dans cette partie du monde 3 ou 4 ouragans de force 5 ou 4, ce qu'on n'a jamais vu depuis de notre histoire.
En même temps, si je me fais un peu l'avocat du diable, on pourrait dire que justement, dans ce futur, l'homme pourra être augmenté et donc s'adapter à un nouvel environnement. Peut-être que le nouvel environnement climatique, qui sera celui de 2050 ou d'un peu plus tard, on aura la capacité technologique ou génétique de nous adapter. Et cette partie-là de l'humanité qui aura accès à ça s'adaptera à un nouveau climat et finalement, continuons.
Oui, mais l'adaptation au nouveau climat nous a permis de survivre à l'ère préhistorique. Je suis d'accord avec toi, tu as raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'adaptation à un climat qui va augmenter ou diminuer. On parle d'une explosion d'écosystèmes. Stephen Hopkins a donné une brillante conférence il y a quelques mois, qui était une réminiscence d'autres conférences, sur le futur de l'humanité, où il a considéré que si on continuait sur la voie qui est la nôtre, sur le plan technologique et sur le plan du traitement de l'environnement, on serait sur un schéma où l'homme n'existerait plus sur Terre dans 100 ans. Et si tu reprends, on a beau avoir la presse qui s'engorge, parce qu'ils ont toujours ce genre de choses, ou les élites qui disent qu'un Elon Musk ou autre sont totalement dans leur délire. Si Elon Musk a créé SpaceX, c'est pas uniquement dans des logiques qui sont des logiques de business. C'est aussi pour considérer que le plan B par l'humanité, c'était pour la Terre, c'est fini. Donc il faut avoir une solution alternative, et la solution alternative, c'est de coloniser une autre planète. C'est, dans son esprit, c'est ça, tu vois ce que je veux dire.
Je voudrais revenir à cette question de on a le pouvoir, est-ce qu'on doit ou pas le faire. Est-ce que tu penses concrètement que d'ici 2050, peut émerger, je ne sais pas si c'est un espace de gouvernance internationale qui soit à la fois, philosophique, éthique, pour justement que ces questions elles soient partagées à une échelle internationale et pouvoir au moins se donner les moyens de partager une réflexion sur un chemin à prendre ou choisir un autre.
Alors, j'espère, mais j'espère que ce ne sera pas des politiques.
Une agora mondiale.
Je pense qu'il y a une réelle nécessité à avoir une gouvernance mondiale sur des sujets qui sont ces sujets-là et avoir des réflexions par rapport à ça. Je pense que parallèlement à ça, il y a une réelle nécessité à retrouver des penseurs, au même titre que les philosophes du temps des Lumières ont permis l'émergence des démocraties, des républiques, même si je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur des régimes, mais ça c'est une autre histoire quand on voit ce qui s'y passe à travers la planète, mais qui ont permis une réflexion réelle sur ce que l'on est, sur notre conscience, ce que l'on peut faire, etc., même si c'était un autre temps. On a la même nécessité d'avoir une réflexion mondiale de questions qui soient posées et qui prennent en compte les différences de positionnement, des lignes de fracture entre le bien et le mal, qui sont des différences de positionnement normales en fonction de civilisations, qui n'ont pas la même histoire, le même rapport à l'humain et à la société. Et en même temps, je pense que l'homme est profondément immature. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, l'argent, a toujours drivé la totalité des décisions. Allez, choquons un petit peu. La religion, d'une certaine manière, même si pour une multitude de personnes, il y a quelque chose de pur derrière, a toujours été une outil de manipulation de masse des grandes masses, des grandes foules. La politique reste toujours, on a quand même eu très très peu d'hommes politiques, dignes de ce nom. En France, on a eu De Gaulle, et encore De Gaulle a fait pas mal de saloperies, mais ça restait un homme d'État. Depuis, on a quand même...
On cherche.
Voilà. Le souci, c'est que les enjeux sont des tels enjeux que les guerres d'ego, les guerres de positionnement, les guerres issues de l'ouverture de la boîte de Pandore, où la dernière chose qui nous reste, c'est l'espoir. Souviens-toi de ce mythe qui est une réalité. Sont des choses qui sont évidentes. Or, on n'a jamais eu autant besoin d'une maturité globale, et je pense de manière réelle que la maturité globale peut venir aussi d'une certaine manière par la société. Mon métier est aussi un métier, je t'avais donné un parallèle avec ma vision des choses. Le logo de mon entreprise est un colibri. Pourquoi ? Parce que dans des histoires anciennes, on a cette histoire du colibri qui, au cœur d'une forêt en feu, va à l'inverse de la totalité des animaux qui fuient le brasier, au cœur du brasier, et quand les animaux lui disent « mais tu vas mourir, pourquoi tu vas là-bas ?» Le colibri dit « je vais là-bas pour mettre ma goutte d'eau, j'aurai fait ma part ». Du travail, à chacun de faire sa part en fonction de son niveau, et chacun a, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, on peut tous travailler là-dessus.
Voilà, tu vois bien au terme de responsabilité.
Exactement, et c'est là où à mon avis la responsabilité peut venir d'une certaine manière par une frange de la population mondiale, prenant conscience des enjeux et à son petit niveau, faisant le tam-tam pour changer les choses à son petit niveau, par les enfants, par pas mal de choses, avec des initiatives, etc. Ouais. Tes enfants par exemple sont beaucoup plus sensibles à la logique environnementale d'une certaine manière, et je suis sûr que t'engueules sur certains trucs quand je vois par rapport à d'autres générations.
Non, c'est sûr.
Voilà.
Ah, et donc finalement, il y a une espèce de tension entre on est humain, trop humain pour prendre conscience des enjeux qui sont devant nous pour justement rester humain ou choisir de devenir une autre espèce, hein, tu disais, et à la fois cette capacité que individuelle et collective à prendre part au débat et aux choix qui sont devant.
Écoute, moi je verrais les choses de manière différente. L'avenir n'est ni rose ni noir. Toutes les options sont sur la table et elles ne seront pas sur la table pendant des décennies.
Alors Jean-Christophe, il te reste à formuler un vœu pour 2050.
2050, je fais un seul vœu, la maturité. Je suis tellement... J'ai tellement honte d'être sapiens. Quand je vois ce qui s'y passe, quand je vois la manière dont on traite les animaux, dont on voit la manière dont on n'est pas capable de vivre ensemble pour des notions qui sont des notions de cours de récréation, la maturité. Parce que c'est la première fois que la maturité d'une espèce va engendrer sa survie ou pas. Heureusement, je ne serai pas là pour vivre ça, mais j'aimerais vraiment qu'en 2050, on ait la maturité d'être au niveau de nos enjeux et de notre pouvoir.
Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.
comme nous avons évoqué Mars très rapidement, et bien très rapidement, je vous propose la lecture d'un livre qui s'intitule « L'envol de Mars », écrit par Greg Beer. Et comme je vous parle de Greg Beer, autant vous enjoindre, ça pourrait être quasiment une obligation, je vous enjoins de lire aussi « La musique du sang », un bouquin que j'adore. Et cette petite musique-là, patience, je vous en dis deux mots jeudi prochain. D'ici là, soyons toujours curieux.